La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Bonjour à tous. Donc je continue avec les pères de l'Église. Comme nous l'avons vu avec Ignace d'Antioche, il y a quand même un aspect dans l'Église qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tout n'était pas donné d'avance. C'est-à-dire que l'organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, les sacrements, les questions théologiques comme la résurrection, la virginité de Marie, tous ces repères, en fait, sont venus progressivement. Et c'est ce qui fait vraiment aussi l'originalité des chrétiens, c'est que, en fait, le message évangélique s'écrit au fur et à mesure des contextes, au fur et à mesure de l'avancée des sciences, de la raison, de l'intelligence. Et donc, nous allons voir aujourd'hui un autre père de l'Église, Justin, qui lui aussi était aux alentours du IIe siècle, un tout petit peu après Ignace. Alors, l'itinéraire de Justin, d'abord, est marqué par un dialogue avec les Juifs. Alors, on peut dire que les chemins de Dieu sont parfois surprenants et qu'il ne faut jamais perdre l'espérance sur quiconque, puisque au départ, Justin n'était pas du tout convaincu de la foi chrétienne. En fait, Justin, qui est mort martyr sans doute vers 165, était païen de naissance, bien qu'originaire de Palestine, de Naplouse exactement, en Samarie. Il a dû naître donc vers le début du IIe siècle. Et puis à un certain moment, il est venu à Rome, et après une interruption, il s'y fixe définitivement. Et il gagne sa vie comme professeur de philosophie. Mais lui, au lieu d'enseigner comme ses collègues la philosophie de Platon ou d'Aristote ou des stoïciens, il enseigne la foi chrétienne, mais uniquement comme école philosophique. Dénoncé sans doute par un collègue envieux et jaloux, il comparaît devant le préfet de Rome, confesse alors sa foi et meurt martyr. Justin n'était pas seul, il était entouré de ses disciples. Les Actes nous en citent 6. Et cette présence était l'hommage le plus émouvant que l'on puisse porter à un maître de sagesse. Alors, son cheminement intellectuel. Justin cherche Dieu et décide pour le trouver d'étudier la philosophie. Au début du dialogue avec Tryphon, il nous raconte son itinéraire d'une école philosophique à l'autre, car il fait de nombreux essais. Mais il est chaque fois déçu. Le récit est certainement arrangé selon des modèles littéraires, mais il est sans doute représentatif de ce que pouvait être à l'époque la formation d'un jeune homme. Quand il arrive au platonisme, Justin croit avoir enfin trouvé sa voie. C'est alors que la rencontre d'un mystérieux vieillard lui fait entrevoir les contradictions de Platon et surtout lui apprend qu'il existe des maîtres qui ont vraiment enseigné la vérité, puisque les faits ont confirmé leurs paroles. Ce sont les prophètes de l'Écriture qui ont annoncé le Christ, tel qu'il est venu longtemps après. C'est sous ce signe que Justin, finalement, se convertit au christianisme. Dès lors, il ne cessera de lire l'Écriture juive comme une suite de prédictions réalisées dans le Christ. Alors, Justin a écrit une autre œuvre que le dialogue. Il a commencé par écrire une apologie pour les chrétiens. Donc, il expliquait, il essayait de convaincre, en fait, d'autres que des chrétiens de l'intérêt et du bonheur d'avoir la foi et surtout de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il a écrit donc le dialogue avec Tryphon. Alors, il a écrit ce dialogue après l'apologie, toujours dans les années 150. C'est certainement un dialogue fictif. Nous n'en connaissons d'ailleurs pas la date exacte, ni le lieu d'ailleurs. Dans son histoire ecclésiastique, Eusèbe dira que cela se passait à Éphèse, mais sans aucune preuve. On ne connaît pas non plus l'interlocuteur, ce Tryphon, qui a parfois été identifié avec un rabbin juif de l'époque. Alors l'œuvre est écrite à l'imitation d'un dialogue de Platon, modèle de toute discussion pour un ancien cultivé. D'un côté, Justin le chrétien va tenter de convertir son interlocuteur juif, et de l'autre, Tryphon est un juif hellénisé entouré de plusieurs compagnons qui assistent à la discussion sans y intervenir. Comme auteur, Justin a l'honnêteté de ne pas se donner de facilité, comme tant le feront, en montrant à la fin un adversaire terrassé par les arguments du chrétien et se rendant à la vraie foi. Ici, les deux interlocuteurs se séparent courtoisement à la fin. Aucun n'a convaincu l'autre et chacun repart vers son destin. C'est l'un des intérêts du dialogue, le seul qui soit intitulé « Dialogue avec un juif ». Alors, à l'époque de Justin, les relations entre juifs et chrétiens sont d'abord très distinguées. On a les juifs d'un côté, les chrétiens de l'autre, mis à part le groupe des judéo-chrétiens dont il a été question dans la première séquence. Juifs et chrétiens sont donc face à face et non côte à côte. Et la polémique fait déjà rage. Du côté chrétien, le thème paulinien de l'aveuglement des juifs, avec l'opposition chair et esprit, est constamment repris et durci. Tous les textes prophétiques d'Israël sur l'infidélité du peuple élu sont repris et retournés contre lui. Ils cessent d'être des rappels à l'ordre pour devenir les attendus d'un verdict sans appel. Déjà avant Justin, les Juifs avaient perdu l'alliance, selon l'épître de Barnabé, dès l'épisode du veau d'or et le bris des premières tables. Naturellement, du côté des Juifs, les chrétiens sont considérés comme des hérétiques. Après la destruction du Temple et le repli identitaire sur la culture hébraïque, la seconde guerre juive 132-135 sanglante, elle aussi, n'avait pas arrangé les choses ni disposé la communauté juive à la tolérance. Alors les grands enjeux théologiques du dialogue posent comme première question : qui sera sauvé ? La question du salut est omniprésente dans le dialogue. Devant la conviction forte de Justin que c'est par le Christ et lui seul, et donc plus par la loi, que le salut peut être reçu. Tryphon pose avec insistance la question du salut des Juifs. Justin répond qu'il vaut mieux être païen et avoir cru dans le Christ Jésus qu'être un Juif pratiquant et ne l'avoir pas accueilli. Comme vous pouvez le ressentir, c'est une question qu'il est légitime de se poser aujourd'hui. Il y a peut-être des pratiquants qui n'accueillent pas forcément Jésus et des néo-pratiquants qui accueillent Jésus, mais faire la part des choses, Dieu seul le sait. Mais c'est une question que nous avons à nous poser. Justin reste très paulinien en affirmant que la pratique de la loi n'est en aucun cas une voie de salut et que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. En revanche, il n'est pas loin de dire qu'un juif ne peut être sauvé s'il ne se convertit pas au Christ avant la fin de sa vie. Comme tous les auteurs anciens, il n'est certes pas un point de départ bien facile pour le dialogue interreligieux d'aujourd'hui. Mais son but, à l'époque, n'est pas celui-là. Il veut avant tout amener les juifs à bien lire l'Écriture en y reconnaissant Jésus. Pour lui, ne pas le faire, c'est refuser la révélation de Dieu, donc finalement être infidèle au judaïsme lui-même. Heureusement, nous avons changé et les Juifs, naturellement, sont nos grands frères dans la foi de par l'Ancien Testament.